Vous écoutez, on lit pour vous.
Des routines de soins de la peau virales et nocives. Un texte de Catherine Heldfield, paru le 29 juin 2025 dans La Presse. Les routines de soins pour la peau promues sur TikTok cartonnent auprès des jeunes filles. Que contiennent ces vidéos? Et quels sont les risques lorsqu'elles sont suivies? Explication en 6 points avec la dermatologue américaine Molly Hales, qui a réalisé l'une des premières études médicales sur le phénomène. Sans vidéo. La docteure Molly Hales est dermatologue et anthropologue médicale. Pour enquêter sur le phénomène des soins de la peau sur TikTok, elle s'est elle-même créée un compte en prétendant avoir 13 ans. Une étudiante a fait la même chose. Les deux chercheuses ont d'abord visionné des vidéos de soins de la peau pour que l'algorithme de TikTok leur en recommande. Elles ont ensuite compilé 100 vidéos, créées par de jeunes filles âgées de 7 à 18 ans. L'idée? Répertorier les produits promus. Leur étude a été publiée en juin 2025 dans la revue Pediatrics de l'Académie américaine de pédiatrie. 6 produits, $168. Nous avons été surprises par le nombre de produits utilisés simultanément dans ces routines. 6 en moyenne, raconte la docteure Hales, jointe par La Presse. Et ce sont souvent les mêmes produits qui reviennent. Un tonique, une brume faciale, un sérum hydratant, des gouttes anti-pollution. Les produits utilisés dans ces routines totalisaient en moyenne $168 US. Et ces routines impliquent beaucoup de temps, ajoute la docteure Hales. Dans les vidéos « Préparez-vous avec moi pour l'école », des filles disaient se réveiller à 5h45, 5h30, parfois 4h45. Irritation. Molly Hales et ses collègues ont fait le décompte du nombre d'ingrédients actifs que les filles appliquent sur leur peau. Dans les 25 vidéos les plus populaires, elles en ont compté 11 en moyenne, tous appliqués simultanément. Les plus communs? Les acides alpha-hydroxylés, acide lactique, acide citrique, acide glycolique. Ce sont des exfoliants chimiques relativement doux quand on les applique sur la peau une fois, en faible concentration, mais ce n'est pas comme ça que les filles les utilisent. Elles les appliquent sur leur peau en moyenne 3 fois, et parfois jusqu'à 7 fois, ce qui aggrave vraiment le potentiel irritant. Allergie. Les produits peuvent aussi provoquer des réactions allergiques. Les ingrédients en cause? Les parfums, contenus dans plus de la moitié des produits, et les agents de conservation. D'ailleurs, l'utilisation croissante des produits de soins de la peau en bas âge, est associée à une augmentation du taux d'allergie aux parfums. Les chercheuses sont tombées par hasard sur une vidéo montrant une préadolescente développer une réaction allergique après avoir appliqué 14 produits. « Ma peau est très éclatante en ce moment. J'adore !» s'est-elle exclamée. « Mais je viens de faire une réaction allergique à quelque chose que j'ai essayé. Alors, ne vous inquiétez pas pour mon visage rouge. » Écran solaire. Des ingrédients actifs sont aussi connus pour augmenter la sensibilité au soleil et donc le risque de coups de soleil. C'est le cas des acides alpha-hydroxylés, des acides bêta-hydroxylés, acides salicyliques et des rétinoïdes. Or, seulement le quart des routines analysées incluaient un écran solaire. L'écran solaire est pourtant le seul produit recommandé pour ce groupe d'âge et, ironiquement, c'est aussi le meilleur produit anti-âge jamais développé, rappelle la Dr. Hales. C'est décevant, dit-elle, que les filles mettent autant de produits sur leur visage, mais passent à côté du seul produit qui pourrait réellement leur être bénéfique. Ouvrir la discussion. Il est difficile de contrôler ce que visionnent les enfants sur les réseaux sociaux, mais les parents peuvent ouvrir la discussion avec eux. Selon la Dr. Molly Hales, ne serait-ce que pour parler des risques associés à l'addition de tous ces produits sur leur peau. Les parents peuvent s'attaquer au mythe selon lequel les filles ont besoin de mettre ces produits pour garder une peau belle et en santé. En réalité, si ces routines complexes ont un quelconque effet, c'est plutôt de nuire à la santé de la peau, note la dermatologue, qui recommande aux jeunes filles de choisir des produits non parfumés, d'appliquer un seul ingrédient actif, si elles y tiennent, et de ne pas oublier l'écran solaire. C'était des routines de soins de la peau virale et nocive. Un texte de Catherine Handfield, paru le 29 juin 2025 dans La Presse.
Des poissons de plus en plus en danger en raison des barrages hydroélectriques. Un texte d'Audrey Sanikopoulos de La Presse canadienne, paru le 30 juillet 2025 dans Le Devoir. L'énergie produite par les barrages hydroélectriques est peut-être moins verte qu'on le pense, affectant de nombreuses espèces aquatiques qui risquent de perdre leur habitat naturel selon une récente étude. Les barrages hydroélectriques produisent de l'énergie faible en carbone, ce qui en fait une énergie verte du point de vue climatique. Mais sur le plan écologique, notamment pour la biodiversité, les impacts sont bien réels, a expliqué Abiboulaye Gano, étudiant à la maîtrise en sciences de l'environnement de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il faudrait quand même qu'il y ait une nuance par rapport à cette appellation, a-t-il avancé. Pour produire de l'énergie avec un barrage, il est nécessaire de gérer les débits d'eau selon la demande en électricité, ce qui ne correspond pas aux besoins des écosystèmes dans les rivières québécoises. De juin à septembre, l'eau est généralement retenue dans des réservoirs afin de la conserver pour les mois plus froids, où le besoin en électricité des ménages augmente. Cela entraîne des débits faibles en aval au moment où les poissons ont justement besoin d'eau pour se reproduire, se nourrir et survivre, a indiqué M. Gano. Et la situation en hiver joue également sur les écosystèmes, puisque l'eau qui est relâchée provoque des crues artificielles, contrairement au régime naturel où les rivières sont habituellement basses et gelées, a-t-il précisé. Plusieurs espèces bien connues de nos rivières se retrouvent menacées par cette gestion de l'eau. C'est le cas de l'omble de fontaine, qui aime l'eau froide et se reproduire en hiver, a souligné M. Gano. Le meunier noir et rouge est aussi affecté par les variations rapides de débit. Dans plusieurs rivières, il y a des populations d'espèces sensibles qui sont en déclin, où l'on voit une baisse des densités de poissons et une perte de diversité dans certaines espèces, a résumé l'auteur de l'étude. Selon lui, certains cours d'eau sont aussi plus sensibles à ces variations, notamment la rivière Saint-Maurice en aval du barrage Gouin et la rivière Gatineau en aval du barrage Kabonga. Des solutions suffisantes? Des pratiques de gestion ont été mises en place pour limiter les impacts sur l'environnement, comme les passes migratoires qui permettent à certains poissons de traverser les barrages. Leurs résultats sont toutefois variables, a noté M. Ganeau. Les débits réservés écologiques qui dictent le minimum d'eau qui doit être maintenu dans les rivières pour assurer la survie des écosystèmes aquatiques sont encore plus cruciaux. Selon M. Ganeau, ces débits minimums ne sont toutefois pas tout le temps respectés. C'était des poissons de plus en plus en danger en raison des barrages hydroélectriques, un texte d'Audrey Sanikopoulos de la presse canadienne paru le 30 juillet 2025 dans Le Devoir.
Des plans ambitieux pour les vélos sur le pont Jacques-Cartier, un texte de Marco Fortier, paru le 9 août 2025 dans Le Devoir. Un ambitieux chantier de modernisation de la piste cyclable du pont Jacques-Cartier entre Montréal et Longueuil a fait l'objet d'études exhaustives qui se sont échelonnées sur 3 ans. Selon ce que Le Devoir a appris, un consortium privé a proposé 13 scénarios visant à bonifier les transports actifs sur cette structure presque centenaire, dont l'élargissement de la piste multifonctionnelle ou du trottoir, la construction d'une piste sous le tablier du pont et même le retrait d'une des 5 voies de circulation motorisées pour faire rouler les vélos. La société d'État responsable du pont Jacques-Cartier a retenu 3 de ces 13 scénarios pour les étudier plus attentivement dans l'espoir d'inaugurer la nouvelle piste à temps pour les 100 ans de cet ouvrage emblématique en 2030. Le projet a toutefois été mis sur pause pour des raisons financières. Le coût des travaux était estimé entre 277 millions et 340 millions de dollars, indiquent les documents obtenus par Le Devoir en vertu de la loi sur l'accès à l'information. Au terme des études réalisées, les ponts Jacques-Cartier et Champlain incorporés, PJCCI, a décidé de ne pas poursuivre, à l'heure actuelle, le projet d'augmentation de l'offre de services aux usagers de transport actif sur le pont Jacques-Cartier. En effet, il a été jugé économiquement opportun de reporter l'élargissement de la piste multifonctionnelle au moment des prochains travaux de remplacement du tablier, prévus dans plusieurs années, indique Véronique Meunier, coordonnatrice de l'accès à l'information au sein de cette société d'État fédéral. Grandes ambitions. PJCCI avait néanmoins de grandes ambitions en 2020 au moment de lancer le brassage d'idées sur les meilleures façons d'améliorer les transports actifs sur le pont Jacques-Cartier. Des centaines de pages de documents internes, consultés par Le Devoir, démontrent la créativité des ingénieurs et des architectes de la Société d'État et du consortium formé des firmes Parsons et WSP, qui a eu le mandat de mener les études d'avant-projet. Ces professionnels n'ont pas craint de penser hors du cadre. Des maquettes montrent notamment des pentes en spirale de plusieurs étages qui créent un lien cyclable entre le sol et le pont. Des passerelles permettant aux cyclistes de survoler les zones propices aux conflits avec les automobilistes, tout en limitant les pentes sur la piste, font aussi partie des scénarios proposés. Ces études se sont échelonnées sur 156 semaines, 3 ans, de l'automne 2020 à l'automne 2023. Leur coût total, indiqué dans les documents de PJCCI, est de 21,4 millions de dollars. Mais la Société d'État n'était pas en mesure de préciser s'il s'agissait de la facture finale au moment où ces lignes étaient écrites. Les auteurs des études ont proposé des solutions allant bien au-delà du simple élargissement de la piste multifonctionnelle située du côté ouest du pont, même si cet élargissement fait partie des scénarios ayant été retenus pour une analyse plus approfondie. un des autres scénarios retenus consiste à élargir la piste multifonctionnelle et à la munir d'une passerelle au-dessus de l'intersection menant à l'île Sainte-Hélène, à mi-chemin du pont, pour éviter les conflits entre cyclistes et automobilistes. L'autre scénario retenu recommande qu'on élargisse plutôt le trottoir situé du côté est du pont pour en faire une piste cyclable d'une largeur de 4 mètres. Cette piste élargie serait aussi dotée d'une passerelle au-dessus de l'intersection de l'île Sainte-Hélène pour prévenir les accrochages entre cyclistes et automobilistes. Enlever une voie aux voitures? L'idée d'éliminer une des 5 voies de circulation motorisée du pont pour faire passer les vélos a été étudiée. Cette hypothèse est écartée pour le moment, pour des raisons d'acceptabilité sociale, même si une étude de circulation a conclu que les effets seraient minimes pour les automobilistes. Dans cette étude de circulation menée en novembre 2022, on souligne que la perte d'une voie pour les véhicules motorisés n'est pas envisageable dans le contexte du débit de circulation actuel. Les ingénieurs rappellent toutefois que le nombre de voitures diminue lorsque la circulation devient moins fluide parce que les automobilistes se tournent vers des routes plus conviviales. Les auteurs de l'étude formulent l'hypothèse d'une diminution de 24 ou 25 % du nombre de véhicules aux heures de pointe en cas de perte d'une voie de circulation. Le temps de déplacement des automobilistes allongerait ainsi d'une durée variant entre 1 et 4 minutes, selon le moment de la journée et la destination finale, Montréal ou Rive-Sud. Cette solution de retirer une voie de circulation motorisée au profit des vélos a été mise en place sur au moins 5 ponts à Vancouver, Boston, San Francisco et Brooklyn dans les dernières années, note l'étude de Parsons WSP. Le ministre du Logement et de l'Infrastructure, Gregor Robertson, qui est responsable des ponts fédéraux, a fait retirer des voies de circulation automobile pour les allouer aux vélos sur les ponts Burrard et Cambie quand il était maire de Vancouver entre 2008 et 2018. Ce cycliste aguerri encourage-t-il la conversion d'une voie motorisée sur le pont Jacques-Cartier? Ou souhaite-t-il d'autres façons d'améliorer les transports actifs sur le pont? Le ministre a décliné nos demandes d'entrevue en invoquant l'indépendance de la Société d'État PJCCI. Une piste dangereuse. À l'heure actuelle, la piste multifonctionnelle du pont Jacques-Cartier comporte tellement de déficiences que la majorité des cyclistes craignent avec raison de s'y aventurer, notent les ingénieurs du consortium Parsons WSP. Cette piste est carrément dangereuse, reconnaît PJCCI. Forte pente, voie trop étroite, vitesse élevée des cyclistes, présence de 5 doubles barrières, les chicanes, obligeant les cyclistes à ralentir, mais qui entraîne des chutes et des collisions, courbes prononcées, présence de piétons, conflits entre automobilistes et cyclistes à l'intersection de l'île Sainte-Hélène, nombreux obstacles latéraux, poteaux, tuyaux, etc. Cette piste multifonctionnelle, construite en 2002, contrevient aux normes de conception actuelles, soulignent les ingénieurs. Des interventions visant l'amélioration de la piste multifonctionnelle permettraient non seulement d'augmenter sa capacité, mais également son achalandage. Néanmoins, on ne peut pas négliger les contraintes propres au pont Jacques-Cartier, sa longueur, ainsi que le gradient et la longueur de ses pentes, lesquelles ne conviendront jamais à tous les cyclistes. Il est cependant à noter que certaines configurations envisagées permettraient de réduire le dénivelé total sur le pont et le gradient de certaines pentes ou leur longueur, ce qui pourrait mitiger en partie cette problématique, écrivent les auteurs de l'étude. D'autres scénarios proposés, mais exclus par PJCCI. Piste, sous la chaussée existante, qui serait suspendue à la structure du pont. La piste passerait à l'intérieur du pavillon de l'île Sainte-Hélène, situé sous le tablier du pont, où viendrait contourner le pavillon du côté ouest du pont. Piste multifonctionnelle indépendante du pont aux approches Montréal et Longueuil, ainsi qu'à l'île Sainte-Hélène. Le nouveau tracé doit cependant franchir la voie maritime et le fleuve à partir de la piste sur le pont existant. Élargissement du trottoir du côté est à 2,5 mètres, comme la piste du côté ouest, pour offrir deux pistes unidirectionnelles, une de chaque côté du pont. Élargissement du trottoir du côté est à 4 mètres pour en faire une piste bidirectionnelle. C'était « Des plans ambitieux pour les vélos sur le pont Jacques-Cartier », un texte de Marco Fortier, paru le 9 août 2025 dans Le Devoir.
Une deuxième vie pour les herbes salées du bas du fleuve. Un texte de Jean-Louis Bordelot paru le 16 décembre 2024 dans Le Devoir. Les herbes salées du bas du fleuve n'ont plus vraiment besoin de présentation. Ce mélange d'herbes, de légumes et de sel assaisonne les plats d'ici depuis bientôt 60 ans. L'entreprise à l'origine de ce classique de la cuisine québécoise a changé de propriétaire l'an dernier et, après une refonte des méthodes de fabrication, ces pots vont prochainement franchir les frontières du Québec. Ça fait un an et demi qu'on a acheté l'entreprise et on dirait que 7 ans se sont écoulés, souffle Stéphanie Ross. Elle et son conjoint Guillaume Fournier gravitaient déjà dans le milieu agricole du Bas-Saint-Laurent quand l'occasion de racheter la célèbre marque s'est présentée à eux en 2023. Jean-Yves Roy, le créateur de ce condiment, n'avait pas de relève après avoir passé des décennies à commercialiser la recette de sa mère. Ça aurait pu être quelqu'un des États-Unis qui allait racheter l'entreprise, mais on aurait perdu toute l'histoire. Il voulait garder ça en région, garder l'essence. Il ne voulait pas dénaturer sa recette, résume-t-elle. Les deux entrepreneurs étaient les parfaits candidats. Ils connaissaient très bien M. Roy et leur ferme d'agneaux était située dans la Métis, le même coin de pays que le fondateur. Tout un défi les attendait au détour de ce reprenariat. Le contenu des pots de plastique transparent était confectionné à la main. Les légumes étaient taillés avec un tout petit hachoir. Les normes de salubrité devaient être revues. Les pots n'étaient pas scellés. Aucune traçabilité ne permettait un suivi de contrôle qualité. La tradition ne convenait plus aux besoins d'agrandissement. Qui plus est, les employés vissaient tous les pots à la main et, à la fin de la journée, certaines travailleuses avaient de la misère à détacher leurs brassières, tellement le geste usait les poignets. Pendant ce temps, les acheteurs s'impatientaient. Une fois la transaction officialisée, en juillet 2023, les distributeurs n'ont pas attendu une semaine pour commander un camion plein. Les stocks étaient à zéro. Le défi n'était pas d'attendre des commandes, mais de répondre à celles-ci, dit Mme Ross. On a acheté la marque de commerce, des clients et une recette. Le reste, ils l'ont bâti dans l'urgence. Une première usine presque entièrement automatisée a été construite avant même l'approbation de l'offre de rachat. Une deuxième a été terminée il y a quelques semaines à peine. On est passé de 1 000 pots par jour à 10 000 pots par heure. Au début, en 1979, il faisait 10 000 pots par année. On est à 450 000 pots cette année. Changer sans changer. Une préparation aussi traditionnelle que des herbes salées, issue de la plus vieille technique de préservation du monde, ne pouvait pas être faite à partir d'une autre recette. Changer ne serait-ce que la taille des légumes hachés aurait provoqué un tollé, assure Stéphanie Ross. Longue a donc été la recherche d'un hachoir industriel qui répondait à cette exigence. le couple a tenu à ne rien changer de la recette originale. Il a par contre dû commencer à s'approvisionner en dehors de ses champs. Jean-Yves Roy n'utilisait jadis que les produits de son propre champ. Les deux entrepreneurs ont donc commencé à acheter des légumes ailleurs dans le Bas-Saint-Laurent pour assurer un volume suffisant. Stéphanie Ross tient à acheter local autant que faire se peut. Le légume le plus loin qu'ils achètent, c'est du céleri de la région de Québec. « Si je manque de céleri au mois de septembre, il faut que j'aille au Mexique. Ça, je ne le veux pas. » La solution pour croître sans manquer de matières premières passe aussi par la récupération des cargaisons rejetées en épicerie. Des camions entiers remplis de légumes légèrement abîmés évitent le chemin du dépotoir tout en permettant à l'entreprise Bas-Laurentienne d'économiser sur les ingrédients, se plaît à dire Mme Ross. Les carottes à deux têtes sont super bonnes, mais elles ne passent pas à l'épicerie. Alors, on accueille ces pauvres carottes à deux têtes. Les fines herbes, c'est toujours nous autres qui les produisons. On est les plus gros producteurs de sarriettes au Québec. De nouvelles herbes, de nouveaux marchés. Quelques nouveautés se sont tout de même ajoutées au catalogue de l'entreprise. Un mélange d'herbes salées déshydratées était vendu en très petite quantité dans les marchés de la région par l'ancien propriétaire. Les nouveaux détenteurs de cette recette secrète souhaitent commercialiser cet aromate partout au Québec. Et pourquoi pas au-delà? Le marché de l'Ontario est prometteur, semble-t-il. Les deux entrepreneurs comptent d'ailleurs garder l'appellation en français si les occasions de vendre hors Québec se concrétisent. On a construit une chambre de déshydratation sur mesure. On l'a fait sans savoir si ça allait marcher. On a mis un plateau et ça a fonctionné à merveille, raconte Stéphanie Ross. Ce sont les mêmes ingrédients que pour les herbes salées humides, mais avec 20 fois plus de fines herbes. Depuis qu'il a repris l'affaire, le couple dit recevoir des offres de partout. Un balado est en cours de réalisation, tout comme un livre de recettes, 100% herbes salées. Malgré l'année remplie de défis qu'ils viennent de traverser, Stéphanie Ross et Guillaume Fournier rêvent toujours de conquérir de nouveaux marchés et ne comptent pas s'asseoir de sitôt sur leur laurier. C'était Une deuxième vie pour les herbes salées du bas du fleuve. Un texte de Jean-Louis Bordelot paru le 16 décembre 2024 dans Le Devoir.